RCF.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Traditionnellement, dans la psychiatrie, la prise en charge suite à un diagnostic posé d'une personne présentant des troubles psychiques est médicamenteuse et peut s'accompagner d'une hospitalisation. Or, il est constaté que non seulement l'usage de neuroleptiques entraîne de nombreux effets secondaires négatifs, mais aussi que l'hospitalisation coupe le patient de son environnement social. L'objectif poursuivi, toujours dans cette optique traditionnelle, est d'abord de considérer la maladie et de la traiter, et non de considérer la personne comme l'acteur principal de son traitement. La maladie est ainsi perçue comme si elle était la même d'un patient à un autre, sans tenir compte du contexte familial, social et professionnel. Or, en Finlande, depuis bientôt 40 ans, se développe une pensée et une pratique du soin différente de ce schéma traditionnel bien répandu. Il s'agit de l'open dialogue, une forme de psychiatrie sociale alignée avec les droits humains, recommandée d'ailleurs par l'OMS. Pour nous présenter cette pratique totalement éloignée de celle que nous connaissons, j'ai invité Monsieur Jean-Pierre Freling, cadre infirmier au Centre médico-psychologique de Longwy. Jean-Pierre, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette thérapie de l'open dialogue ?
Bien sûr, mais alors c'est bien, pour moi c'est bien plus qu'une thérapie, c'est une façon de considérer l'être humain autrement. On ne considère pas les symptômes comme des éléments à éliminer. Le symptôme contient des éléments de compréhension accueillis comme un processus de rétablissement, et c'est la personne concernée elle-même qui détient la clé de son histoire. C'est une philosophie appliquée, clairement humaniste. Il ne s'agit pas de donner des solutions, de pointer ce qui dysfonctionne, mais de permettre au réseau, famille, amis, collègues, de créer, d'inventer ensemble un nouveau mode relationnel qui permet une meilleure communication.
Alors, cet open dialogue, quelle en est l'origine ? Quand et comment a-t-elle été mise en place ? Et est-ce que ça a remplacé une pratique identique à la nôtre ?
Alors, elle vient du froid. C'est une région de Finlande, la Laponie de l'Ouest, qui a 183 775 habitants pour 1,9 habitants au kilomètre carré, avec, on le sait, une météorologie particulière et des rythmes soleil-lune qui sont particuliers, qu'on ne connaît pas chez nous. Le contexte d'apparition, c'est dans les années 80, la Finlande obtenait les plus mauvais résultats dans le traitement de la schizophrénie. Et ça survient après le contexte du mouvement antipsychiatrique des années 70. Les fondateurs Jaakko Seikkula, Birgitta Alakare et Jukka Aaltonen à l'hôpital Keropudas de Tornio ont travaillé ensemble pour développer cette approche. Et la base des années 80 est clairement la thérapie familiale qu'ils ont fait évoluer au fil des années.
Et alors, depuis son application, quel est son taux de réussite?
Alors, sur une étude qui a été menée sur 13 ans, je crois, pour plus de 80% des patients, retour à la vie active ou à leurs études dans les 2 ans. Pour plus de 70% des patients dans les 3 périodes, ils n'ont pas eu une seule rechute sur une période de 2 ans. Et pour 80% des patients, disparition des symptômes psychotiques et intégration sociale. Et 80% ne sont pas soumis à une allocation de handicap.
Alors, pour mieux comprendre cette prise en charge complètement dissemblable de celle utilisée en France, pouvez-vous nous détailler ces différentes interventions et par qui elles sont assurées ?
À partir du premier appel, passé par le souffrant lui-même, ou sa famille, ou des amis, des proches, la personne qui reçoit l'appel va organiser, on va dire, la sortie thérapeutique, c'est-à-dire les moyens techniques, les professionnels. Et à partir de ce moment-là, la personne va être vue dans les 24 heures. On verra que c'est un des principes importants. Soit la personne est en crise grave, dangereuse pour elle-même ou pour les autres, et là, ils ne savent pas mieux faire que nous. C'est une hospitalisation et un traitement parfois de contention et de sédation. Où la personne est n'est pas en crise et est prête à recevoir dans son foyer ou un autre lieu sécurisant les co-thérapeutes.
Alors, cette prise en charge, qui est un petit peu spéciale, c'est la base même de l'Open Dialogue. Cet Open Dialogue qui est composé de 7 principes, des principes ou des piliers fondamentaux, qu'il est peut-être utile de nous présenter.
Alors, le premier pilier, c'est l'aide immédiate, ce qui nous fait rêver, nous, en France. Répondre dans un délai de 24 heures à la demande d'aide. La perspective du réseau social, c'est-à-dire qu'on va travailler non seulement avec la famille, mais avec ce que là-bas ils appellent un réseau, c'est-à-dire en incluant des amis, des collègues, des copains étudiants, toute personne importante pour la personne concernée. La flexibilité et la mobilité quant aux besoins spécifiques du patient et de ses proches. Et ce n'est pas un vain mot. Flexible et mobile, il faut l'être. Responsabilité, c'est-à-dire comprendre la responsabilité du suivi, l'engagement sur la durée. La continuité psychologique, on assure une continuité dans le traitement, c'est toujours la même équipe qui va d'un bout à l'autre du suivi. Tolérance à l'incertitude, alors ça, enfin moi perso, ça me fait rêver. Quant à l'évolution de la personne et des soins, on est dans un système où il y a un problème, il y a une solution, et là, il n'y a pas de solution. On ne peut pas prédire quelle sera l'issue du traitement. Et puis, pour terminer, le dialogue et la polyphonie. Il s'agit de générer un véritable dialogue ouvert et compréhensible pour tous et par tous.
Et quelle est la constitution de cette équipe de traitement? Pourquoi d'ailleurs on l'appelle l'équipe de traitement et non pas l'équipe médicale?
Ils utilisent un mot que j'aime beaucoup. Moi, c'est pas des séances de thérapie, c'est pas des consultations, ce sont des réunions de traitement. Donc, c'est les professionnels qui se déplacent, ou le binôme ou le trinôme en fonction des besoins de la personne ou des conditions. Ça peut être un psychiatre, psychologue, infirmier et plus récemment des pères aidants. Ils sont avant tout thérapeutes formés à l'open dialogue et les liens professionnels sont transversaux. C'est-à-dire que la hiérarchie en cours dans nos institutions françaises est dépassée dans ces équipes. Les professionnels ne sont pas là pour analyser ce qui dysfonctionne et insuffler les solutions. Ils font partie intégrante du réseau, composé des proches, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'amis, collègues, copains, étudiants, professeurs, toute personne ressource.
Vous êtes bien sur RCF. Dans le cadre de l'émission Santé Plus, je reçois Jean-Pierre Fréling, cadre infirmier, qui nous présente l'Open Dialogue, thérapie pratiquée en Finlande. Jean-Pierre, ce processus de Open Dialogue, basé sur des entretiens psychothérapeutiques, exclut-il tout apport médicamenteux ?
Non, absolument pas. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait arriver que les personnes soient hospitalisées sous contrainte quand il y a un réel danger. Par rapport au traitement, ce sont les somnifères et les hypnotiques qui sont privilégiés car les souffrants sont souvent dans un état de fatigue extrême à cause d'un manque de sommeil, d'une inversion du rythme jour-nuit. Et les psychotiques, quand ils sont vraiment nécessaires, seront utilisés à petite dose et sur une durée la plus courte possible. L'open dialogue n'est pas contre les traitements, comme on peut l'entendre parfois. Les équipes en font juste un usage raisonné.
Est-ce qu'il faudrait un petit peu que ça se passe aussi chez nous?
On pourra y réfléchir.
Alors, l'ensemble de cette prise en charge repose sur les échanges à l'intérieur d'un réseau constitué de nombreuses personnes. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est cela qui s'appelle la polyphonie, qui figure d'ailleurs, comme vous nous l'avez énuméré tout à l'heure, dans les 7 piliers de l'Open Dialogue?
Oui, avec le dialogisme. Lorsqu'un groupe se réunit, un groupe, n'importe où, n'importe qui, pas forcément en open dialogue, il y a plusieurs voix, et c'est la polyphonie. Mais toutes les voix sont-elles bien entendues? J'en suis pas sûr. Dans l'open dialogue, la polyphonie signifie que toutes les voix sont importantes et chacune doit être entendue, respectée, à défaut d'être comprise du point de vue de l'émetteur. Écouter l'autre, c'est le faire exister. Et il est aussi question de laisser de la place aux polyphonies intérieures de chacun. Voilà. On a des pensées quand on écoute, quand on parle.
Des pensées intérieures et extérieures, voilà, qui peuvent s'exprimer ou pas s'exprimer, ou pas d'ailleurs. C'est une expérience qui est quand même parfaitement intéressante. Est-ce qu'il y a des lieux en France où cette expérience, cet open dialogue existe et mis en place, en France ou dans les pays limitrophes?
Alors oui, très peu, à Mulhouse depuis 2 ans et à Marseille. De plus en plus d'usagers de familles sont dans l'attente de mise en place de l'Open Dialogue un peu partout en Europe et dans le monde. Par exemple en Italie, en Suisse, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Suède, les USA. Quelques villes comme Framingham, New York, Atlanta, et ça évolue énormément.
Alors pour s'adapter à cette pratique, je pense qu'il doit, y avoir une formation spécifique. À qui s'adresse-t-elle et où se situe-t-elle ?
Alors oui, il y a une formation, parce que j'ai participé moi-même à la première année de la première formation francophone. Depuis quelques années, il y a une formation anglophone, et seulement depuis l'année dernière, cette formation francophone, qui présente pour nous un intérêt certain, et est animée par une équipe de formateurs, dont Carlos León, docteur en psychologie installé à Genève, et il a reçu la formation de formateurs par les Finlandais, et des formateurs des équipes Open Dialogue finlandaises. Ce cursus est porté par Jupi Asso, cofondé entre autres par Maeva Musso, interne en psychiatrie à Paris, et qui est allée en immersion avec l'équipe finlandaise. Elle a également brillamment soutenu sa thèse au mois d'avril sur l'open dialogue et l'utilisation raisonnée des traitements.
Alors si j'osais, Jean-Pierre, est-ce que je pourrais vous demander si à Dijon, l'open dialogue pourrait se mettre en place ?
J'y travaille depuis quelques mois. C'est pas simple. Mon problème principal, c'est que je n'ai pas de médecin pour porter le projet pour l'instant. Donc le dossier est écrit pour partir, pour être présenté normalement à l'ARS, pour délivrer des fonds de financement. Et pour l'instant, enfin voilà, mon problème, c'est de ne pas avoir de médecin.
Donc il faut en faire la publicité de cet Open Dialogue.
Complètement.
Alors si les auditeurs sont intéressés et souhaitent avoir des informations complémentaires, à qui peuvent-ils les demander ?
Eh bien, moi, en premier lieu. Alors j'ai mon adresse mail pro que vous pouvez, je pense, retrouver sur le site de l'UNAFAM.
Oui.
À Maeva Musso, sur le site de Jupi Asso, vous aurez le lien également, et à Carlos León sur son site odformation.org.
De toute façon, ces informations, vous les retrouverez en consultant le site internet de l'UNAFAM en Côte d'Or, ils y figureront.
Et n'hésitez pas à me contacter, je suis en train d'essayer de constituer un groupe de réflexion autour de la promotion de l'Open Dialogue dans notre région.
Donc je vous remercie Jean-Pierre Freling de nous avoir présenté cet Open Dialogue qui
avec
est
plaisir.
Vraiment très très intéressant comme expérience nouvelle. C'est une pratique qui prône la verbalisation afin de permettre à la souffrance émotionnelle du malade de s'exprimer, car celle-ci, les Finlandais le croient, est entre autres la racine de sa psychose.
Entre autres.